Je me souviens du contenu de ce document-ci. L'autre jour, on travaille avec la Maison de développement durable à réfléchir à l'habiter urbain demain, comme d'autres villes le font, d'autres régions. C'est une question qui est portée depuis 4-5 ans minimum. Voilà. C'est cette phrase de Luc Laurent. La vive effervescence en matière d'habitat alternatif dénote la difficulté rencontrée par un grand nombre de ménages à se loger décemment. Ils cherchent parfois de manière désespérée une solution. J'étais encore en Bruxelles ce matin, c'est flagrant, au niveau d'immigration en particulier. Cette effervescence, d'après lui, en tout cas, met en évidence l'impossibilité pour nombre de ménages d'accéder à la propriété, malgré les importants dispositifs de prêts sociaux et autres, ainsi que à cause d'une forme d'insuffisance de l'offre locative à vocation sociale. Cette insuffisance est vraiment une donnée permanente, malgré les différents plans de création de logements. Alors, peut-être juste pour élargir un peu mettre en contexte par rapport à vos quatre interventions, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une variété de publics dans leur rapport au temps, dans leur âge, dans leurs aspirations ou dans leur formulation culturelle, quant à la taille des ménages, quant aux revenus, quant au statut, quant aux attentes architecturales. Je viens déjà de nommer de surcroît les migrants. Il y a une variété de formes de logement et certains peuvent définir par eux-mêmes les caractéristiques de la salubrité ou de l'habitabilité. J'admire cette phrase, l'habitation qui n'est pas un logement, qui vient dans les textes évoqués là. Ça m'a vraiment touché de dire ça comme ça. Un deuxième volet pour moi, c'est les finances. Je suis un tout petit peu économiste de formation. Il y a la question de la garantie. Quand on veut accéder à la propriété, la question du capital de départ, la question de l'ensemble du capital mobilisé, le coût global, et la question des coûts de maintenance, et la question des coûts de rénovation, probablement après 10 ans, et la question des coûts d'équipement des voiries. Une autre dimension qui est apparue, c'est l'articulation entre la dimension logement, urbanisme et régulation sociale. Logement, ça c'est flagrant. D'urbanisme, et bien on voit partout, enfin de plus en plus, qu'on réfléchit à éviter l'étalement urbain ou à créer des zones d'habitat, mais qu'il faut probablement accueillir dans des espaces bien dédicacés pour des expériences de type CLT ou autre. Et enfin, il y a la régulation sociale qui doit être articulée à ça. Notamment, il n'est pas possible de se loger dans un même bâtiment si l'un est doté d'un statut de chômeur, le troisième de membre du CPS, etc., etc. Vous connaissez mieux que moi. Une question, c'est une autre dimension pour moi, c'est le post-carbone. Montigny s'est lancé dans l'action de ville neutre en carbone 2050. Ils sont plusieurs à y contribuer. Il y a la question de la mobilité qui devient extrêmement périlleuse, ou un enjeu, ou un défi de lutte anti-stress. Il y a la question de l'énergie, de l'accès à l'énergie, des innovations, ça parle beaucoup éventuellement. Les PEB en sont une dimension. Il y a la question de la matière plus écologique éventuellement. Dans les questions qui sont évoquées dans les textes que nous avons lus, il y a la part, la contribution de la personne, de la famille, du collectif éventuellement, puisque la plupart du temps CLT veut dire collectif ou d'autres formes, et la question de la contribution des autorités, soit locales, soit régionales, notamment au niveau des normes ou des modes de subvention, voire même le rôle des agences immobilières sociales. Voilà, on a retrouvé aussi également l'idée de labelliser des projets, d'une part pour leur donner une reconnaissance un peu médiatique ou de support tout au moins, mais également pour les habilités socialement par rapport aux normes sociales ou aux normes de subvention, et aussi éventuellement pour éviter les déviances. Alors dans la question de rapport à la propriété, il y a la dimension, la question de différencier la propriété des sols, du bâtiment, voire des équipements, ainsi que de leur gestion. On a un petit peu... En très résumé, ce qui me semble être un champ de travail. Alors, je voudrais vous proposer, vous avez sûrement préparé des interventions, je ne sais pas, et Samuel, tu es en premier liste, comme tu es architecte en plus, allons-y. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de recommander, enfin, peut-être un commentaire ou une réaction à la tenue de l'atelier, et peut-être éventuellement une piste ou l'autre que tu pourrais suggérer.
Moi, je suis venu ici avec beaucoup d'intérêt et une petite connaissance de l'amphithéose, effectivement. Je rappelle, je suis architecte et pas juriste, mais enfin, par la force des choses, ça fait 6 ans, je suis quand même rentré là-dedans. Il y a quand même différentes choses qui m'intéressent, c'est comment construire plus simplement aujourd'hui. La question de côté, jusqu'à l'habitat léger, mais peut-être comment construire moins cher. Et alors la question du CLT, bien entendu. Il y a quand même pas mal d'articles de presse sur le CLT bruxellois aujourd'hui. Moi, ça m'a interpellé sur différents aspects. On a essayé à Louvain-la-Neuve, peut-être qu'on me contredira ici, mais on a essayé de garantir aux gens la possibilité de garder leur maison. Ça a été une inquiétude depuis le début. Le contrat d'amphithéose était parti pour le mois de novembre. Et puis, on a souhaité pouvoir le prolonger, avoir la garantie pour le prolonger. Et donc ça a été un combat jusque maintenant pour pouvoir être sûr que sa maison à Louvain-la-Neuve, on l'avait, entre guillemets, pour toujours. J'entends que le CLT bruxellois, aujourd'hui, c'est des durées qui sont finalement très limitées, c'est 30 ans, et plus éventuellement 20 ans. Et donc moi, je me pose un peu la question de tout ça, où finalement, mais voilà, je pars d'une sensibilité pour l'accès aux familles. Quand il y a 10 ans, j'ai cherché une maison, on n'a pas trouvé à Louvain-la-Neuve, on a été habité à Tilly. Et donc c'est quelque chose qui est resté quand même assez ancré. Et tous mes collègues de mon âge à l'UCL n'ont pas trouvé de logement à Louvain-la-Neuve. Aujourd'hui, il est un peu plus facile parce qu'on n'habite pas à l'extérieur. Donc voilà. Mais donc tout ça nous a interpellés. Mais pour revenir au CLT, la question de la durée de 30 ans, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment frappé et pour laquelle je voulais discuter. Alors, je comprends de ça que finalement, on ne paye plus un loyer à fond perdu, mais on est quand même propriétaire de ce prix, et donc on garde une sorte de prix qui est lié. Son loyer est investi dans de la brique. Et donc, on ne perd pas son temps, on récupère, on essaye de ne pas avoir de plus-value, de ne pas avoir perdu ce qu'on a mis comme argent. Mais peut-être que je me trompe pas, donc c'est tout ça que je suis intéressé à discuter.
Merci. Peut-être une réaction par rapport à ça ou une question. Et lui, il a formulé une question, donc vas-y, vas-y.
Juste avant de venir sur cette notion-là, peut-être juste repositionner le modèle. Parce qu'il y a Bruxelles. Et ça, c'est Bruxelles.
Oui, bien sûr.
Juste repositionner le modèle. Le CLT, c'est d'abord un outil de développement local. Donc, ça n'est pas un projet immobilier, ce n'est pas un bâtiment fustile avec une séparation solide. Ça, c'est technique, mais c'est d'abord une réflexion par rapport à un territoire, une réflexion par rapport aux besoins d'un territoire, par rapport aux populations qui sont au manque. Et cette réflexion, elle est menée par l'ensemble des acteurs de ce territoire. Par les habitants, par les associations, de façon à identifier les populations, les types de besoins qui ne sont pas rencontrés et à mettre ça dans une vision à long terme. Et développer à partir de là une stratégie de développement du comité and trust. Le comité and trust étant la structure qui va mener une série d'opérations sur le territoire des îles. En l'occurrence, à Bruxelles, il y a un comité and trust qui mène une série d'opérations immobilières dans une série de communes différentes. Donc, je dis ça, mais j'insiste là-dessus parce que chaque fois que j'entends parler de comité and trust, les gens ramènent ça à un projet immobilier. On va faire un comité and trust et on va construire 5 appartements là, on va faire 2 maisons là. C'est pas ça un comité and trust. Un comité and trust, c'est une réflexion territoriale menée par un ensemble d'acteurs conjointement ayant une gouvernance équilibrée de façon à pouvoir, sur base des opportunités de ce territoire, développer des projets immobiliers qui répondent aux besoins des communautés locales, notamment pour permettre aux gens de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir, après des études, acheter sur place, etc. Donc c'est ça un CLT. C'est pas un projet immobilier. Le CLT mène des projets immobiliers. Et dans ces projets immobiliers, on va avoir des fonctions diversifiées, même si en termes de surface utile, l'essentiel va être dirigé vers du logement. Mais néanmoins, comme on est dans une réflexion stratégique sur un territoire, amener du logement, c'est bien, mais amener du logement, si on imagine des familles, là, on va avoir besoin de crèches, on peut avoir besoin d'une série de services, on peut penser également à des espaces en termes de surface économique, locale, par exemple, on peut avoir des formation. Enfin, voilà. C'est pas uniquement sur du logement. C'est le travers que j'entends toujours, c'est que les gens pensent logement acquisitif démembré, projet de vie. Donc je laisse ça volontairement en disant non. C'est ça dedans, c'est ça notamment dedans. Et en l'occurrence, c'est biaisé par rapport à la vision que les gens ont de Bruxelles. Moi j'ai participé à la mise en place de cette et de ces lois. Et il a été biaisé pour des raisons politiques et de pouvoir politique de la région, d'obliger le secteur de cela à ne faire que du logement et à ne faire que du logement acquisitif. Ce qui était complètement contraire à ce que nous, on voulait faire, parce qu'en faisant que du logement acquisitif, on se prive de toute une série de populations qui ne vont pas vers l'acquisitif.
Est-ce que tu pourrais formuler une proposition, un groupe, une recommandation
Voilà, moi, ma proposition, ce que je veux vraiment amener dans ce travail ici, c'est de dire, cessons de penser que c'est juste de l'immobilier démembré, ça, n'importe qui peut faire. Et il ne faut pas être en CFT pour faire de l'immobilier démembré, donc le fond, ben voilà, la preuve, deuxième, voilà. Si ce n'est que le propos du CFT, c'est bien de conserver l'accès à la terre, c'est-à-dire de retirer le sol du marché, et de le mettre dans une structure qui va représenter le plus possible la notion de bien commun, même si ça n'existe pas juridiquement, un bien appartient à quelqu'un, fût-il l'État, une personne privée, une entreprise, mais voilà, c'est un bien. Et comment est-ce qu'on fait pour le mettre le sol dans un bien commun? Alors on est dans une structure dans laquelle on a tous les acteurs d'un territoire qui sont représentés à part égale, à force égale. Et donc l'intérêt public, les pouvoirs publics et la société civile, associations, entreprises, et les utilisateurs des sols du CLT. Et le deuxième aspect, et ça c'est la comparaison qu'on va faire avec Thomas Hanoï, c'est que ça ne suffit pas. C'est qu'il faut avoir un levier anti-spéculatif sur le bâti. Aujourd'hui, on a une séparation sur le bâti à Hanoï, bien sûr, mais on voit que les prix, évidemment, ne cessent d'augmenter de façon vraiment violente. Et donc, il faut effectivement avoir un contrôle sur les valeurs de location, de vente, et surtout les valeurs de revente, parce que ce n'est pas du tout de pouvoir amener des biens accessibles à des familles à plus faible revenu. Encore faut-il que le jour où ils revendent, ça reste accessible à une autre famille. Alors, il y a des aspects juridiques qui n'ont pas répondu, mais je ne sais pas s'il faut...
Le principe, non, les principes, il y a pas mal ici. Voilà, il nous reste encore deux interventions, celle de Vincent, celle de Jean-Louis, puis on fera un tour de tavoir, deux ou trois. Donc, une réaction et une proposition.
Je n'ai pas préparé particulièrement quelque chose, mais je le prépare tous les jours depuis très longtemps. Donc, forcément, cette question elle est fondamentale. Quoi. Pour moi, elle est relativement évidente, surtout dans la province dans laquelle on se trouve, où il y a 3,69% de logements publics. Mais, votre avis est un très bon exemple.
on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux.
N'empêche, vous avez vu que le 22 mardi, on fait un énorme colloque sur le logement public, mais c'est pas pour ça que je suis là. C'est concrètement pour la question de l'habitat léger, une solution valable et viable à la crise du logement. Et c'est bien souvent ça qu'on oublie. Comme Luc Laurent le dit dans cet article dans les peuples, le logement, il n'oublie pas totalement, et une transformation dans l'art d'habiter. Donc l'habitat léger, tout le monde connaît un peu le quartier de la baraque, du coup. Au quartier de la baraque, il y a l'habitat léger, il n'y a pas que ça. Et donc, cette solution qui est préconisée par de plus en plus d'habitants en Wallonie, vraiment, c'est... Parfois, chez moi, je n'ose plus décrocher le téléphone, sinon je fais SOS yurt. Je rigole, j'exagère un peu, mais je reçois des mails tout le temps, habitat et participation, en parlant pas, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, ils ont mis des ateliers de formation en cours. On voit un contexte bouillonnant où des citoyens, là on n'est pas dans l'associatif, on est dans vraiment les citoyens qui trouvent une solution par eux-mêmes. On estime à 14-15 000 personnes qui habitent dans l'habitat léger en Wallonie. En Wallonie, on préconise le fait que les gens qui habitent en zone de loisirs sont aussi dans l'habitat léger. De nouveau, pas tous. Donc on voit bien des zones mixité bâtie conventionnelle et sur lesquelles se raccrochent de l'habitat léger, du roulotte, caravane, petite maison en terre paille, bulle, enfin, un peu tout ce genre-là. Et donc, on voit ce contexte bouillonnant qui est là et le politique a du mal à suivre. Je ne vais pas de nouveau lancer des fleurs sur Otigny, mais bon, de temps en temps, quand je peux le faire, je le fais. Il y a une mobilisation à Otigny sur le fait de se dire, bah, tiens, l'expérience du quartier de la baraque, on peut dire que ça marche un peu. Donc c'est un squat, d'accord, il y a des débordements, d'accord, il y a des choses qui se passent pas toujours bien, d'accord, mais grosso modo, 40 ans d'expérience qui permettent de donner corps à une autogestion, à un travail sur l'épuration des eaux grises, la création d'un magasin, d'une épicerie, d'un quartier, d'un resto, d'un espace, d'une régie de quartier autogérée. Enfin bon, je peux continuer, quoi. Alors, je peux vous donner tous les problèmes aussi, hein, mais bon, je ne peux pas le faire, pas de chance.
Très stratégique.
Finalement, on voit ce projet-là. On dit souvent, le quartier de la baraque, c'est impossible à produire. C'est vraiment impossible, quoi. C'est tellement lent, ça a pris du temps. C'est énorme, on est quand même avec 68 habitations, 140 habitants, une quarantaine d'enfants scolarisés, je rassure tout le monde. Et donc, on a un projet qui est énorme. Et donc, on voit de l'autre côté à Platini, en Gaume, M. Quelbeuf, MME, qui développe une zone d'habitat léger au sein même de sa commune. Le projet est en route. Je l'ai vu, il avance avec une interprovinciale, une intercommunale provinciale du Luxembourg. Ils avancent, ils vont pour huit logements ou entreprise pour des jeunes indépendants qui veulent se lancer. Voilà. Et donc, la proposition concrète là-dedans, c'est en connaissant le quartier de la baraque, en connaissant cette pression wallonne, immobilière, foncière, en connaissant la pression citoyenne pour aller vers les questions de trouver des solutions par soi-même sur la question du logement, je pense qu'il est, et en connaissant le schéma structure, les RCU, à l'étude de Otigny-Louvain-la-Neuve, qui dit concrètement l'habitat léger ne peut pas se cantonner aux trois zones du quartier expérimental et alternatif du quartier de la baraque. Donc, moi, je dirais, à un moment donné, sur ces bases, en plus, sur une base de CLT, il est vraiment imaginable de voir une expérience pilote. Il y a des demandes énormes au Tigny, il faut rassembler les gens autour de cette question-là pour aller vers la réflexion et la mise en projet de la commune de Tigny sur le développement d'une zone d'habitat léger. Je ne sais pas, de 10 ou 15 habitations. Quoi.
Merci. Merci. Cher Jean-Louis, tu es le quatrième intervenant et puis nous ferons tour de table. Absolument. Une réaction ou une proposition.
Beaucoup de choses ont été dites et le sujet était extrêmement vaste. Ce qui est certain, c'est que les habitants de Louvain-la-Neuve et ceux surtout qui veulent y habiter et ceux qui en sortent rencontrent un problème de coût. Aujourd'hui, on l'évoque tout à l'heure, donc j'y reviendrai pas. Donc c'est vraiment une préoccupation que relaie l'association des habitants. Alors au niveau des techniques et des réponses qui peuvent être mises en œuvre, on a parlé de CLT, on a parlé d'aménager des dispositions dans le bail amphithéotique. Peu importe, je pense que c'est une discussion technique, mais l'important c'est que ce type d'outil existe. Ceci étant dit, je me pose deux questions. Tout d'abord, quels sont les acteurs sur Otigny et en particulier sur Louvain-la-Neuve? On parle essentiellement de logement public. Alors qu'en est-il des autres acteurs? Il y a des immobilières sociales, il y a le fonds de logement, etc. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont très présents aujourd'hui sur Louvain-la-Neuve. Quelque part, il y a essentiellement un axe qui est le logement public. On a parlé des aspects réglementaires, je pense qu'ils sont importants, tant sur le plan fiscal, maisons, kangourous, colocations, etc., qui sont bloqués sur les aspects réglementaires. On a évoqué, bien entendu, le RCU, le règlement communal d'urbanisme, qui devrait peut-être, plutôt que d'avoir des contraintes sur les balcons, avoir des contraintes sur le fait que les nouveaux logements devraient être des logements évolutifs et ne pas admettre des logements qui ne soient pas évolutifs. Et la question doit être posée, parce que ça, c'est quelque chose qui est un élément, qui serait un élément positif, une contrainte positive pour la logement en fonction de l'évolution de la vie de la famille. Ça me semble important. Dernier point auquel nous sommes très attentifs, on l'a évoqué, c'est comment éviter la stigmatisation. Sur le Val-la-Neuve, il y a les quartiers sociaux. On a reçu encore notre maison, c'est un quartier social. En plus de ça, où le mettons ? On le met le nom de la nationale 238, parce que quand on est pauvre, il ne faut pas nécessairement avoir un logement de qualité. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque. Alors, comment éviter de stigmatiser, mais sans programmant les choses correctement. Aujourd'hui, il faut programmer le fait d'éviter la stigmatisation. Quand je songe par exemple au développement sur Athéna, les nouveaux quartiers qui est envisagé et qui est prévu du côté du boulevard de Lozé, mais très clairement, la discussion ne peut pas porter sur quelle petite partie je vais réserver pour faire un CLT, quelle partie je vais réserver pour notre maison. Non, répartissons les logements sociaux et ayons un raisonnement de type accès au logement qui soit réparti sur l'ensemble pour éviter de stigmatiser. Ça me semble quelque chose d'important.
Merci beaucoup. Il nous reste une demi-heure à peu près pour que Julie ait noté avec précision les recommandations que l'on va transmettre en plénière. C'est juste, voilà. Alors, je propose de faire vraiment un tour de table de manière, moi j'y tiens beaucoup dans la dynamique maison développement durable, d'entendre la parole de chacune et de chacun. Et on peut le faire d'abord sur une réaction ou une question et puis un deuxième tour sur. Il y a eu quand même des propositions très précises des quatre intervenants, lesquels mettons en évidence, comment peut-on les nuancer éventuellement, les enrichir, que sais-je, en évitant d'être contre, mais plutôt de compléter des choses pareilles, éviter de devoir faire des débats.
Moi, une question que je me suis posée en entendant vos interventions, c'était, même dans ces alternatives, je dirais, comment réserver, être le plus accessible possible, comment les rendre les plus accessibles possible au public les plus défavorisés. Parce que j'ai l'impression que, partant justement de Val-la-Neuve, même d'Outigny, on peut faire une analyse de public, de population, en voyant qu'il y a des petites classes moyennes, des gens moins riches que d'autres dans la classe moyenne, mais malgré tout, c'est peut-être ceux-là qui vont aller vers les différentes formules dont vous parlez. Et donc, vraiment les publics les plus défavorisés, est-ce qu'on a suffisamment pensé à eux, parlé d'eux, même dans vos interventions?
J'aimerais qu'on fasse d'abord le tour avant de répondre, pour qu'on soit entendu. Merci.
Mais moi j'étais venue un petit peu ici, je suis contente d'entendre un petit peu toutes les situations, les propositions, parce que j'ai dans ma pratique, en maison médicale, je rencontre souvent des personnes qui sont en recherche de logement et très souvent évidemment, des personnes qui n'ont peut-être même jamais accès à la propriété. Mais peut-être que je vous dis ça pourrait, hein, une personne qui a un revenu de 900 euros d'indemnité mutuelle, est-ce qu'elle pourrait se lancer dans un projet pour avoir accès? Aussi, j'ai pratiquement une personne qui aimerait bien se lancer dans un projet d'habitat léger.
Je peux proposer comme une pensée groupe.
Oui, mais qu'est-ce que le groupe va dire? Il y a déjà un terrain, mais même pas dans Otigny de Val-la-Neuve. Et est-ce que c'est utopique de penser que peut-être un jour, il pourra sur ce terrain-là s'installer en habitat léger, alors que ce n'est pas sur Otigny de Val-la-Neuve? Ou est-ce qu'il pourrait avoir accès à Otigny de Val-la-Neuve aussi?
Merci.
Je vais plutôt rebondir sur ce qu'elle m'a demandé de dire, et messieurs, on parlait de défavorisés, et j'ai parlé aussi de stigmatisation. dans le cadre de notre travail sur le terrain, parce qu'on doit aussi parler justement, enchaîner avec le problème de discrimination dans l'accès au logement. Une discrimination généralement qui est basée sur le patrimoine, donc la richesse et les critères raciaux. Je pense que c'est important. Donc c'est ça, en fait, ça suit la stigmatisation des limites d'accès au logement à certains publics.
Merci beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui va prendre là. Oui. Réaction, proposition.
Oui, enfin, une question, proposition. Donc, c'est la relation. Moi, je suis locataire, donc j'habite dans le quartier des Fleurs, je suis dans le quartier Citronnet, Ziboulette, etc. Et le problème que je vois chez certains locataires long terme, donc je suis locataire, mon propriétaire habite Hong Kong, il a fait un placement un jour, et c'est dire comment est-ce que le locataire peut modifier les lieux. Hein, par exemple, l'isolation, je voudrais pouvoir changer l'isolation et le chauffage, j'en ai pas le pouvoir et le propriétaire n'est pas tellement intéressé. Et aussi, au moment où on devient âgé, de réaménager une salle de bain, de mettre des rampes, etc. Comment est-ce que la relation propriétaire-locataire pourrait comporter des articles et des contraintes d'amélioration du lieu. Et je pense que ça se pose, hein, surtout avec les personnes âgées qui sont dans le quartier, hein, là, là au départ, il y a des gens qui sont là depuis 40 ans, dans des longues occupations, et il y a tout un travail, tel que l'isolation aussi pourrait être un chantier commun sur l'ensemble de la commune, de dire, voilà, pour les propriétaires, les locataires et tout, en disant, on fait un énorme projet, on regarde si on fait une isolation à l'intérieur de la maison ou à l'externe, quel problème urbanistique ça pose, et de se mettre, faire un chantier d'isolation très large, aussi catégorique. Voilà, c'est des suggestions à partir de ce que je vois dans le cas.
Directement. Oui. Moi, je me pose la question des baux emphytéotiques et je me dis comment ça se fait que une entité, une entreprise, l'UCL, ait un pouvoir si grand, sans débat démocratique, de décider du développement d'une ville et des politiques de logement. Et je me dis, c'est quand même vachement chou. C'est pas normal. Donc moi, je suggère de questionner les baux emphytéotiques. Je trouve que c'est pas normal non plus qu'il y ait si peu de personnes qui soient capables de m'expliquer ce que c'est un bail emphytéotique, alors qu'eux-mêmes ont signé un bail emphytéotique, parfois. C'est hyper compliqué. Ah, ok, enfin voilà. Et donc, voilà, si vous avez une réponse à donner, c'est super, mais voilà.
Vincent, c'est pour les yours, et Samuel, c'est pour les baux emphytéotiques.
Ah non, pas emphytéotiques.
J'ai aussi peur de décrocher mon
truc. C'est long, merci beaucoup.
Donc voilà, ma suggestion, c'est... remettre ça en question, remettre la question sur la table.
Voilà. Oui. Voilà, moi j'aurais voulu réagir un peu dans le même sens que Madame Ska et Hardy, donc par rapport aux populations d'origine étrangère, enfin, voilà, notre association, c'est notre public. Ce qu'on remarque, c'est que c'est des populations qui n'ont pas accès à la propriété et n'ont accès que quand ils peuvent à des logements dans le locatif, mais avec des loyers... vraiment inabordable. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut avoir une politique qui pourrait réguler les loyers? Ça, je ne sais pas si c'est de la compétence des communes, mais voilà, qu'est-ce que la commune pourrait faire à ce niveau-là? Alors par rapport au projet d'habitat léger, je me demandais aussi, ça c'est un questionnement, est-ce que d'un point de vue plutôt culturel, est-ce que toutes les populations ont accès à ce genre d'idées, enfin de d'alternatives vraiment neuves? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle d'ordre plutôt culturel à ce genre de logement? Voilà.
Merci.
Alors, en tant que service du logement de la ville, ben, je retrouve ici tout ce que j'entends tout au long de l'année en termes de problèmes, en termes de demandes et en termes de propositions de solutions via le CLT pour lequel la ville était reconnue dans le cadre de l'ancrage communal. Donc, voilà, ben, ça ne fait que confirmer ce que j'entends tout au long de l'année, les demandes pour l'habitat léger, pour des loyers maîtrisés, pour lutter contre la hausse des prix de revente. Ben voilà, la ville n'est qu'un acteur qui ne maîtrise pas tous les outils. Et parfois, on n'est que spectateur, même pas acteur. Donc, voilà. Pardon ?
C'est la Wallonie.
En partie, d'autant plus que la question pour monsieur d'isoler son logement en tant que locataire, ben, ça doit être mis dans la loi, enfin, dans un contrat de bail. Le bail vient d'être régionalisé, ils sont en train d'y travailler au cabinet du ministre Furlan. Est-ce qu'ils vont prévoir une ouverture pour ce genre de choses ? Je sais que maintenant, ils vont donner à certains propriétaires l'accès aux primes selon certaines conditions de respect de l'isolation et compagnie. Donc ce sont des pistes.
Mais ils vont encore pouvoir rester dedans s'il y a...
Voilà, mais maintenant...
C'est très gentil d'avoir...
Mais c'est pas ça, mais il y a aussi le fait que si vous rehaussez le niveau... de confort énergétique, de confort d'habitation d'un logement, ben le propriétaire va faire un investissement, et donc à un moment il va vouloir retrouver et rentabiliser son investissement, donc ça va peut-être aussi d'une autre manière participer à l'augmentation des prix de vente ou de location. Donc voilà, c'est vrai que c'est un débat vaste, et voilà, tout, on maîtrise de loin pas tous les outils.
Sur la question de l'habitat léger, j'ai parlé trop vite, je pense, grâce à l'effort. J'ai parlé de 15 000 personnes, et finalement, dans les 15 000 personnes, il y a près, on estime, avec l'URBD et le collectif Allé, qu'il y a près de 2 000 dans la filière alternative. Mais il y en a énormément qui habitent dans les zones de loisirs.
Non, mais c'est pas vraiment un choix, ça. Vivre dans une caravane.
Tu peux faire un avis là-dessus. Moi, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un habitant de Foix-de-Chapelle, et j'en connais beaucoup, qui, en fait, ils sont arrivés là par un accident de la vie, ils ne veulent plus revenir dans le logement public. Ils disent, ah non, jamais, quoi. Là, moi, je suis chez moi, j'ai un accès, je peux habiter ma maison, je peux mettre un clou, je peux repeindre, je peux. Voilà. Et donc, concrètement, attention, je me bats toute l'année avec des journalistes et des gens qui se disent, ah, l'habitat léger, c'est les bobos. C'est faux. Ils sont très peu pour l'instant à oser passer à l'acte, parce que les gens qui habitent dans les zones de loisirs, c'est depuis les années 90, les 80, et ils sont beaucoup. À Froide-Chapelle, on va faire une promenade, il y a un endroit, 700 habitations. Et les gens qui sont là, c'est chouette, et c'est le quartier avec un social profond. Pas les quartiers sociaux, pourquoi justement stigmatiser, on retrouve des niveaux de vie différents. Voilà. Vous voulez juste expliquer ça parce que ça.
Voilà, on va faire une deuxième séance maintenant, je veux dire. Proposer que Julie fasse un petit peu un mémo de ce qu'elle a pu glaner de toutes les interventions, réactions, mais vraiment.
Deux minutes.
Comme ça, très, très avide, je dirais. Et puis proposer à Jean-Louis, Samuel, Roland, Vincent, alors de refaire une réaction, parce qu'il y a eu des questions qui sont venues en filigrane, et peut-être pour repréciser, de manière à engranger progressivement, pas à pas, avec le groupe ici, une formulation pour la plénière de tout à l'heure.
Bon, je vous dis ce que j'ai noté, et puis vous me direz ce qu'il faut en retenir. Hein.
Voilà.
Donc, des interventions, j'ai noté certains éléments, pardon, dans la première intervention, noter la notion, si on parle d'accès à la propriété, de le maintenir sur le long terme et de ne pas mettre une durée trop courte. Donc ça, c'était ce que Samuel a amené sur la question de durée des baux amphithéotiques éventuels dans le cadre d'un CLT. Également, l'idée de construire léger, mais peut-être pas jusqu'à l'habitat léger. Donc je trouvais la question assez intéressante de se dire, bon, l'habitat léger, la yourte, la cabane foraine, ce sont des choses très spécifiques qui rentrent très difficilement dans les cadres légaux. On peut faire une forme d'habitat léger, de construction plus simple, plus minimaliste en termes de dimensions évolutives, etc. Donc de diminuer le coût du logement sans être complètement dans cette difficulté que rencontrent ces formes de logement extrêmement alternatives. Je trouvais la notion assez intéressante. Évidemment, là, ce qu'amenait Orlando sur le CLT, qui doit être un outil de réflexion territoriale et pas un projet immobilier, c'est Oui, c'est intéressant, c'est une autre vision et c'est parfois un peu difficile pour les pouvoirs publics. Je pense que je ne vous apprends rien. Et ne pas faire que de l'acquisitif. Pas être que dans l'acquisitif. Parce que là, je pense qu'on a aussi quelque chose à travailler ici, chez nous, mais je pense que c'est de façon globale en Belgique, on est très porté sur l'acquisitif. Et je crois qu'il y a... c'est pas la seule solution. Donc c'est un développement qui doit être pensé aussi. L'habitat léger, vaste question qui m'interpelle beaucoup et sur laquelle j'ai pas mal d'envie que ça avance, et en même temps avec beaucoup de difficultés. Et donc, bah, je retiens la proposition de Vincent de mise en projet à Autigny-Louvain d'une autre zone d'habitat léger. Voilà, je la retiens telle qu'elle est. Monsieur Denis parlait de logements évolutifs, modulaires, la nécessité de travailler sur cette modularité, évolutivité des logements. Attention à cette question-là. Chouette, mais on est toujours en but, si on crée un logement unifamilial, qu'on pense possible de diviser par la suite, on est toujours en but sur cette question de densité octroyée, de densité pensée de population à cet endroit-là. On a un schéma de structure qui dit, voilà, à tel endroit, on est dans une densité de population, d'habitation qui est d'autant. Si tout le monde divise sa maison, la densité est doublée et ça ne rencontre pas les objectifs qui étaient pensés à l'origine puisqu'ils sont liés à la mobilité du quartier, aux espaces de parking, aux équipements, etc. Donc on a toujours cette question-là qui vient, même si la modularité est un point assez intéressant, évidemment, à penser dans la création de logements. Éviter de stigmatiser les quartiers sociaux et donc répartir les logements sociaux ou les logements publics, je préfère cette appellation-là, les répartir plutôt que les ghettoiser, c'est évidemment une politique qui est en route, mais bon, on fait aussi avec ce qu'on a. Les lieux pour construire, il n'y en a pas beaucoup, donc on essaye de répartir. Donc, voilà, mais donc je retiens la suggestion de bien répartir tout ça. La question de la... Alors, dans les projets, je trouvais la remarque assez intéressante, dans les projets qui ont été évoqués, où se situent les publics les plus défavorisés? Est-ce que le CLT sera une réponse d'accès pour les publics les plus défavorisés? Personnellement, je n'en suis vraiment pas sûre. Même, je crois que ce ne sera pas vraiment... C'est compliqué. C'est une bonne question. Si on parle d'acquisitif des publics les plus défavorisés, je crois que le CLT ne sera pas la réponse. Si on parle dans le locatif, peut-être. Mais peut-être pas acquisitif. L'habitat léger, par contre, c'est une solution à très bas coût. Donc, l'accès au public les plus défavorisés, pour moi, est une question importante. Pas facile à traiter via les propositions actuelles. Politique de régulation des loyers à l'échelon communal. Pas gagné. Oui. Ah oui, la relation oui, locataire-propriétaire.
Amélioration
de tout ça. Comment le locataire peut-il s'investir dans son logement pour améliorer son logement, pour le faire évoluer par rapport à ses besoins, par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Aussi débat plus large qu'un débat local.
C'est l'idée à la limite d'un CLT d'isolation.
CLT d'isolation.
Bon. Il y a du chanvre.
Bon, voilà, moi je vous dis que moi j'ai noté. Après,
voilà.
Est-on suffisamment dans du propositionnel avec ça,
beaucoup.
Je ne sais pas.
Alors, parole maintenant, à deuxième tour, à Jean-Louis, Samuel, Orlando, pour voir si ce qui a été retenu correspond bien, il faut affiner, plus le droit de réponse éventuellement, bien sûr. Et puis on fera, à mon avis, un dernier tour de table.
Je pense que l'aspect réglementaire est important, c'est facile de dire, effectivement, il y a un schéma de structure, il y a des problèmes de densité, mais ça peut être anticipé aussi, je pense. On peut anticiper qu'à un moment donné, la population évolue en âge. Et donc, je pense que réellement, le fait de pouvoir diviser aujourd'hui vers une réglementation adaptée pour pouvoir le faire est sans doute une des possibilités.
Est-ce que je pourrais répondre quand même à cette question-là, parce qu'on travaille sur cette question-là déjà depuis longtemps, on n'a pas beaucoup d'outils réglementaires pour ça. Et sur cette question spécifique-là, on a créé un groupe de travail au sein de l'administration qui rassemble différents services, qui est une cellule transversale sur la question du logement. Et on est en train de mettre en place un système. Alors, notre but n'est pas que tout le monde utilise ce système-là, mais qu'il puisse être utilisé dans des cas précis où on a un propriétaire occupant qui a une maison qui est trop grande pour lui, qu'il souhaite garder et qui... dans lequel il serait prêt à accueillir un locataire ou quelqu'un, mais cette personne aurait besoin de pouvoir avoir un statut d'isolé, donc d'être reconnu comme isolé et ne pas être dans la composition du ménage de son propriétaire. Et donc dans ce cas-là, on est en train d'essayer de développer une procédure qui permettrait... C'est pas des failles dans la réglementation, mais c'est une façon d'interpréter cette réglementation qui permettrait de faire ça à titre temporaire, à titre provisoire. Parce que ce qui peut être intéressant, donc, quand on est pouvoir public, si toutes les maisons unifamiliales sont, parce que la personne qui habite devient plus âgée, fait la division, si toutes les maisons unifamiliales sont divisées à terme, il y a des familles qui ne trouveront plus, des familles plus grandes qui ne trouveront plus le logement. Donc pour nous, ce n'est pas intéressant que ça puisse être fait de façon systématique et que ce qui est fait soit définitif. Donc ce qui nous intéresse dans cette dynamique qui est imaginée aujourd'hui, c'est de dire, à titre provisoire, on octroie une division du bien, qui n'est pas une division urbanistique, mais on crée une unité de logement complémentaire dans le bien. Et cette unité de logement complémentaire permet à la personne qui vient habiter là de conserver ses droits en tant qu'isolé. Donc, on est dans un cas on va être dans un cas assez précis, c'est celui d'un propriétaire occupant qui reste occupant et qui prend quelqu'un chez lui. Ça peut être un réfugié, quelqu'un qui est reconnu, candidat réfugié, qui cherche un logement parce qu'il vient d'avoir sa reconnaissance et il doit trouver un logement dans peu de temps. Ça peut être donc des publics tout à fait spécifiques, des publics divers, qui viendraient loger dans un endroit. Et cette séparation, cette création d'unité de vie s'éteint avec le départ d'une des deux entités. Donc elle est... Bon, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors ça répond qu'à une petite partie de la question. Ça ne va pas répondre à des jeunes qui commencent à bosser, qui ont envie de partager une maison à 6 parce que ça leur coûte moins cher et qui voudraient quand même garder le statut d'isolé. Ça n'y répond pas. On n'est pas là-dedans. Mais on répond déjà à une question. On se rend compte, par exemple, au quartier de Sérou, plein de maisons unifamiliales. On n'a pas envie que toutes ces maisons soient divisées. Ce n'est pas le but. Le schéma de structure, la densité est assez faible. On souhaite la maintenir. Cette densité faible, mais en faisant ça, on ne divise pas sur le long terme. Voilà, petite réponse sur les réflexions qui sont menées actuellement. Je voudrais très répondre à une petite partie des cas.
Je peux rajouter, si je peux, une petite chose, c'est dans les mains de notre avocat pour validation de la créativité qu'on a eue entre nous. Bon, on est plein de volonté, on est plein de créativité, mais après, il faut voir si on est conforme par rapport à la loi, parce qu'après, s'il y a des recours, tout le système tombe à l'eau, donc. C'est dans les mains de notre avocat.
C'est une voix, une petite voix. Voilà. Il y a quelque chose là qu'on essaie de mettre en place, qu'on a identifié comme possible.
Je suis très étonné par les gens qui ont âgé dans des toutes petites pensions et qui devraient pouvoir se loger ailleurs avec nous, etc. Je pense qu'il n'y a rien de problème aujourd'hui de personnes âgées, isolées. Il y a peu de problèmes. Et qu'on retrouve, entre autres, dans l'initiative de.
Merci Jean-Louis, est-ce que tu as encore un complément?
L'intérêt, je pense, c'est quand même pouvoir faire marche arrière par rapport à cette division, parce que ça augmente vraiment la valeur immobilière.
Oui, c'est ça aussi, spéculation.
Voilà. Donc, il faut être très attentif par rapport à ça. Alors, moi, je voulais répondre à la question que j'ai rappelée tout à l'heure. Quelle est la bonne échelle des logements publics sociaux dans une ville? Est-ce que c'est si mal fait que ça à Louvain-la-Neuve? Ils ont quand même été intégrés dans chacun des quartiers. J'entends le reproche de l'avoir reporté le lendemain de 238. C'est sans doute un peu malheureux. C'est historique, le logement public, pour se développer, il lui faut 10 ans. Et on ne peut pas réserver des quartiers pauvres, des parcelles de terrain au centre des quartiers qui sont des friches pendant 10 ans. Donc ils ont toujours été reportés un peu sur les bords, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que c'est pour Athéna, je crois qu'il faut vraiment se poser la question, quelle est la bonne échelle du logement public? Est-ce que c'est un petit bâtiment? Est-ce que c'est un petit îlot? Est-ce que c'est les plus grands éléments?
J'ai pas la réponse.
Non, il faut préparer.
Merci beaucoup. Tu as encore d'autres choses à ajouter par rapport à la synthèse que...
Non, Julie l'a dit beaucoup mieux que moi par rapport au juste milieu entre l'habitat léger et la maison hyper technologique qu'on a aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça.
Et on est venu, je pense, dans les quartiers, ça prend du temps à Ténèf, en quelques années, mais céder des terrains pour une ou deux maisons sur un art ou deux, le terrain est moins cher et on doit pouvoir construire simplement dessus.
D'accord. Merci beaucoup, Samuel. Orlando.
Oui, plusieurs choses. Je reviens sur la notion de toucher les publics et les plus défavorisés, pour aussi ramener une correction sur ce col de sur le CLD. Le CLD n'a pas pour but de faire du logement pour les publics les plus pauvres.
Pour but unique.
Voilà. Parce que c'est ça qu'on est comme sur le CLD n'a pas pour but, et ça c'est la réduction. Elle a pour but de permettre aux populations locales de pouvoir continuer à se loger dans ce territoire, avec une attention particulière aux populations qui sont affaiblies et qui n'ont pas accès à un logement de qualité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CFP a pour but d'éviter les déplacements de population, d'éviter les effets de gentrification.
Ça, c'est la vision bruxelloise ou la vision américaine?
Ça, c'est la vision américaine. Mmh.
Okay. Merci.
On est en train de prendre dans la vision bruxelloise, sauf que le cadre politique qui a permis l'émergence du CLT bruxellois a complètement forcé à biaiser en fait, ce qu'on voulait faire au départ. Et notamment, l'utilisation de la superficie ou du vent fibrose est une obligation qui nous était imposée par le Fonds du logement, qui était le partenaire incontournable de construction. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis et ils acceptent maintenant de travailler sur de l'amphithéose. Et c'est eux qui ont imposé ça. Mais bon, voilà, le cas bruxellois est un cas qui est complètement soutenu politiquement par la région dans tout.
Par contre,
par le bâti. Et donc, ça a un effet de levier entre les partis politiques qui ont fait que certaines choses ont été acceptées, mais sur base de conditions qui ont coincé le CLT bruxellois. Donc,
je voyais quand même un article que l'espace bruxellois paraît intéressant, plus que l'espace wallon, sur cette question des CLT, d'après ce qui était écrit dans l'article de Laurent, considérant qu'il y avait un top dome plus marquant en région wallonne qu'en région bruxelloise.
Alors, si on parle juste d'une répartition par rapport à
deux tiers de contrôle, etc.
Effectivement, quand on voit le coût du sol à Bruxelles, forcément, il est bien plus important sur un habitat à Bruxelles que si je suis en zone rurale, c'est bien vrai partout. Et donc forcément, en retirant la valeur sol, déjà, j'ai un gap d'accessibilité qui est plus intéressant sur Bruxelles que je suis en zone rurale. Mais c'est ramener le CLT à juste une réflexion d'accessibilité financière par une séparation sol bâti. Encore une fois, pour moi, c'est de la caricature. C'est pas ça. Et en l'occurrence, le CLT, c'est pour ça que j'ai insisté au départ sur le fait de dire que c'est un outil de développement local qui s'inscrit dans une vision stratégique de réflexion sur un territoire et qui doit s'inscrire, qui n'est pas la panacée universelle, clairement pas, ça c'est sûr. Ça n'est pas pour tout le monde, clairement pas. Non, bien sûr.
Il faut le marquer dans les recommandations.
On est conscient. D'où l'intérêt de l'inscrire dans une vision stratégique du territoire et de l'inscrire, si je prends uniquement la thématique logement, alors que c'était ça, le logement, je réinsiste un petit coup.
C'est de l'habitat.
C'est de le mettre dans une réflexion de parcours du logement.
D'accord.
Sur le territoire. Et de se dire qu'effectivement, on peut toucher les publics plus défavorisés. Un public plus défavorisé, ça peut être quelqu'un de très pauvre, mais ça peut être quelqu'un de pas si pauvre que ça, mais complètement isolé, en incapacité de mobilité. Ça peut être des jeunes qui ont un boulot, mais qui ont un revenu tellement faible, qui sont incapables de trouver un logement fût-il en locatif de qualité, incapables de pouvoir passer sur l'acquisitif aussi. Donc, c'est des publics qui sont effectivement fragilisés sur leur territoire. Et donc le CLT, avec une variété d'accès au logement, du locatif, du bail glissant, du leasing, etc., permet de toucher une variété de public et de s'inscrire dans un parcours de logement au sein de tous les outils existants sur le territoire.
Merci beaucoup.
on fera un exposé juste tout à l'heure. Vincent, par rapport à la synthèse que Julie a formulée, réaction, enrichissement, une réaction, une réponse à une question, et puis après on reprend un tour de table, il sera 50.
Je pense que concrètement, bien noté que c'est pas uniquement des publics favorisés. Si on fait la moyenne, c'est un public défavorisé qui habite dans l'habitage. Si c'est une base financière, parce que finalement, on retrouve pas mal de gens qui vivent, ne veulent pas vivre avec beaucoup d'argent. Ça, c'est plutôt la vague intellectuelle et un peu alternative. Et d'autres qui découvrent qu'avec pas beaucoup d'argent, en fait, on peut super bien vivre quand on est propriétaire de sa parcelle dans une zone de loisirs et son mobilhome, un mobilhome sans roue, donc, hein, un petit chalet. Enfin, ça dépend des pays, de façon sont différentes en fonction des... Et donc, il y a marqué ça. Pour moi, c'est une mise en projet des communes, c'est un des projets du collectif Aller, c'est dire aux communes, on comprend bien, vous avez peur. Il faut vous rassurer. Parce que là, vraiment, enfin, je pense qu'au Tigny-Louvain-Neuve, Julie Chantry a travaillé près de 3 ans sur la question de la photologie, donc elle connaît bien la thématique, mais il y a beaucoup d'autres communes où c'est le flux total. C'est protéger les gens contre eux-mêmes. Parce que, attention, ils pourraient se mettre dans des situations catastrophiques. Et c'est normal, il faut faire ça. Hein. Je me moque pas, je pense qu'à un moment donné, il faut faire gaffe. Mais de l'autre côté, c'est ce cadre sécuritaire, de sécurité, est-ce qu'il n'est pas devenu trop grand ? Voilà. Moi, je pense bien retenir que, fondamentalement, ça touche tous les publics, et que pour moi, ce n'est faisable que sur base d'auto-réalisation et de participation, pas de livraison. C'est pas un projet qu'on livre. Ça, non. Il faut pas. Ça tuerait toute possibilité de s'approprier son logement. Donc, les exemples existent. Le projet Spiral qui a développé, tout n'est pas blanc, hein, dans ce projet, pour des habitants d'une zone de loisirs, la création d'un peu vivant, comme le logement public en. Eh bien, ça a pris près de 10 ans, c'est dans le l'éco, je pense qu'ils en parlent dans l'éco du logement aussi, celui qui est en ligne. Eh bien, c'est avec des habitants d'une zone de loisirs, du début jusqu'à la fin, processus de construction de petites maisons. D'autres projets ont lieu, mais ils ont beaucoup plus de mal avec les réglementations, enfin comme celle qui traite de l'ONEM. C'est quelque chose à faire à Charleroi, qui a développé tout un projet de développement, de construction, dans le cadre de formation foraine. Mais bon, voilà, ils ont eu plein de mal à terminer. Je ne sais même pas s'ils ont terminé, mais la même à peu près. C'était pas dans le timing. Et bien voilà, enfin, donc pour moi, cette autoréalisation, l'aspect participatif, pas livré de l'habitat léger aux gens. Les gens demandent pour l'instant de pouvoir s'impliquer et habiter. Et je terminerai par dire que toute la question de la qualité de vie que Paul a amené sera abordé mardi lors du colloque. Nous organisons un colloque avec le RBDL sur cette thématique-là, le logement public, l'approche quantitative, lourde technique, et l'autre qui est parce qu'on n'oublie pas quelqu'un en histoire, les habitants et la possibilité d'habiter sa maison.
Merci beaucoup. Alors, pour conclure, peut-être une réaction ou une idée pour demain ou pour plus tard. On va faire le tour comme ça. Les seules personnes qui n'ont parlé qu'une seule fois ont vraiment le temps de le refaire une deuxième fois.
Ce qui m'a frappé en tout cas dans la discussion, c'est devenu plus une discussion après, c'est les mots participation, les mots tous les acteurs, enfin faire travailler tous les acteurs autour du projet de développement local, etc. Je trouve ça vraiment très important, mais je trouve que ça ne peut se faire qu'en combinant aussi des professionnels de différents champs, quoi. Parce que quelque part, on retrouve un peu un processus de développement communautaire, d'action collective, qui n'est pas si facile que ça quand même à mettre en place avec des publics défavorisés pour qu'ils aient vraiment une place. Et s'il y a, enfin, donc il y a des professionnels de différents types. Et donc, de l'action sociale, du travail culturel, etc., qui doivent aussi être associés à ces projets-là, je trouve.
Merci. Jean-Louis.
Oui, bon. Il y a beaucoup de choses à discuter. Entre le rôle de l'UCL, le rôle particulier, le Tigny-Louvain-la-Neuve, je vais pas revenir là-dessus.
Moi, j'ai un peu une question.
Donc, on va peut-être faire le tour, si tu veux bien.
Voilà. À tout.
Vous pouvez faire un petit tour.
J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, et à la fois, je trouve super intéressant tout ce qui se passe à la commune et tout ce qui se passe, enfin, tout ce qui bouillonne, et envie de dire, ben voilà, travaillons ensemble.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai constaté que, voilà, quand Mme Léchine faisait sa synthèse, quand même, je n'ai pas entendu le problème des migrants. Voilà. Donc,
voilà, tout à fait. Merci beaucoup.
Parce que ça fait partie de moi. Je pense que ça doit aller de pair avec ce problème de stigmatisation et de discrimination. Il y a un autre travail qui est en cours à Bruxelles, où c'est le myriade. Pour l'égalité des chances. On parle que de ce problème de discrimination au logement.
Merci. Samuel, une dernière phrase.
Non, je crois que si on avait eu plus de temps, ça aurait été bien discuté aussi par rapport à l'hôpital léger, etc. C'est la baraque est très très proche du centre de Gouvernement. C'est vraiment un atout. J'ai peur que quand on fait des poches comme ça en Ardennes, quoi, que ces gens soient finalement fort isolés, ont toujours besoin d'une voiture, ou n'ont même pas les moyens d'avoir une voiture. Donc il y a aussi cette question de la proximité aux services, etc.
Merci. C'est valable dans beaucoup de questions qui ont été abordées. Merci. Orlando, je t'en prie. Orlando, je crois que tu voulais faire un petit rajout.
Juste une chose, mais je crois que la question est fondamentale pour la protection, justement, des territoires, de penser des aspects mobilité, etc. Mais je rebondis sur l'aspect de ce que vous avez dit et de ce que vous avez dit aussi, c'est la participation. Le CET, on le voit comme un outil, mais ce qui est le fondement c'est du fonctionnement de société, c'est la participation, surtout quand on veut toucher des publics, justement, qui sont les publics plus défavorisés. Il est nécessaire d'abord de penser les choses initialement d'une façon participative, avec les habitants, mais aussi dans la mise en œuvre de faire avec les futurs utilisateurs des sols, donc les futurs propriétaires, locataires, de travailler avec les gens, se d'approprier ce qu'ils veulent. Mais ça n'est possible que s'il y a des professionnels qui accompagnent, si effectivement il y a un vrai accompagnement.
Par exemple, l'habitat et la participation.
Oui, la participation est un des acteurs aussi, mais ça veut dire que ça a un coût.
Okay.
Et que donc ça doit être prévu. Parce
d'accord.
Que c'est trop facile de prévoir les choses sans prévoir ça. Oui. Or, la réussite, elle est là. Elle n'est pas tellement en fait de faire du gaz, je ne sais pas quoi, qui peut faire de très bonne qualité, etc. La réussite, elle est d'abord parce qu'on travaille avec des gens, pour des gens, par rapport à la vie que les gens ont donnée. Elle n'est pas dans la brique. Et les coûts doivent être prévus.
Merci beaucoup. Vincent, une dernière phrase.
Paul,
je pense que tu avais une intervention prévue, cher Paul.
J'avais un point de réflexion d'historien, donc je suis en train de lire un livre sur les années 70 à 89, et je regardais un peu l'évolution de tous les bâtiments qui existaient en 72, 73, 74, et toute l'histoire des gens qui y sont passés, avec des veuvages, des divorces, des séjours à l'étranger pendant quelques années, puis retour, etc. Et donc, entre autres, on avait étudié à l'association des habitants les maisons, donc il y en avait une juste à côté de chez moi, unifamiliale, qui s'occupait par des étudiants, et on ne voulait pas refuser cette sociologie particulière de gens qui viennent de terminer leurs études et qui restent groupés. Donc, hein, tu l'évoquais tout à l'heure en disant que ce n'était pas la question actuelle, mais donc, dans l'évolution de vie, et moi je me demandais s'il ne devrait pas y avoir une créativité financière, par exemple dans la gestion des cas de divorce, etc., des gens qui partent d'une pleine propriété puis qui se retrouvent locataires à la recherche de voir si l'argent qu'on investit dans le logement ne peut pas être conservé même quand on change de lieu.
Beaucoup.
Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. l'argent qu'on a laissé
mais donc, maintenant, je pense que la politique a été forte, on l'a évoqué plusieurs fois, basée sur l'acquisition de la propriété, ce qui n'est pas le but de tout le monde. Mais il y a des gens qui voudraient avoir...
En tant que locataire, l'argent qui a été investi.
Locataire, propriétaire, je dirais qu'il peut y avoir une créativité financière qui garderait, qui gérerait de l'argent permettant d'occuper des lieux à d'autres endroits, à la limite, sans devoir refaire des frais de notaire, surtout que souvent ça se passe à partir de situations critiques, divorce, veuvage, accident grave et handicap. Mais ça demanderait une créativité notariale, ou je ne sais pas moi. Et à 29, quand on regarde l'histoire des bâtiments, comme je l'évoquais depuis 40 ans, on a eu besoin de... Il n'y a pas eu de très bonne solution. Tu comprends ce que
je... Peut-être le réseau des abbayes est une solution.
Donc, moi, ça m'intéresserait que des sociologues fassent des études 40 ans d'une maison ou 40 ans d'une personne. Enfin, des parcours personnels et des parcours de...
Paul, Myriam.
Moi, j'ai rien de nouveau à ajouter, mais j'ai pas entendu la question des bons phytotypes dans le rapport. Je sais pas si
ça peut apparaître. Question j'aurais. Je veux bien mettre les bons phytotypes, mais sous forme de questions, alors que.
Ouais, est-ce qu'il y a des lieux où ça s'est discuté, où il y a la question posée, reposée de la légitimité de ces bons?
Ici, sur le
Valais, oui, de manière générale, quoi. Enfin,
ce que je formulerais, parce que la légitimité, c'est un peu difficile de mettre ça en question aujourd'hui, mais par contre, peut-on envisager une évolution des baux amphithéotiques,
oui,
avec peut-être des éléments qui pourraient être introduits dans le dispositif, parce que tel quel, il ne l'a pas fait ses preuves, on peut dire, ça ne change rien aujourd'hui. Les gens ne sont pas propriétaires du terrain, mais les coûts sont super élevés à Louvain-la-Neuve. Donc, le bail amphithéotique tout seul n'a pas fait ses preuves. Donc, peut-on l'enrichir de quelque chose?
La première demande au départ de Louvain-la-Neuve, ça a été une forte inquiétude par rapport à ce bail amphithéotique, parce que les gens, après l'emménagement, n'aiment plus rien.
Ouais.
Et donc, il a fallu sécuriser les gens.
Oui. Donc, là, il y a quand même quelque chose.
Effectivement, aujourd'hui, on se dit, ah oui, mais attention, si le coût de l'immobilier est trop cher, donc on doit sans doute refréner, et de quelle manière on doit... On est prêt effectivement à réfléchir à tout ça. On le fait, on n'a pas encore. Et oui, il y a des petites choses qui ont été amenées maintenant, donc on ne peut pas revendre sa maison dans les 5 ans ou les 10 ans. On peut toujours l'avouer, mais on pourrait venir à une obligation de domiciliation. Donc tout ça est en discussion. Ça évolue petit à petit, sans doute sur les quartiers Athéna, on va devoir marquer un pas plus important.
Ça est déjà complètement appliqué à Bruxelles dans les actes de sécurité de transport vers la famille. Okay. Les propriétaires peuvent revendre, mais pas à un certain prix. Le mode de calcul du prix de revente est dans l'acte. Il est obligé d'être propriétaire habitant. Il ne peut pas se louer.
Tout ça,
s'il y a un cours de vie, c'est effectivement.
Et le blocage aussi,
un cours de vie et que voilà une séparation où je trouve un boulot plus loin qui m'oblige à déménager, mais j'ai pas envie de revendre. Le CLT qui va mettre en location à ce moment-là, de façon à pouvoir garder le public cible qui était visé initialement sur les lieux. Tout ça existe déjà dans les actes et validé juridiquement. Tout est là.
Est-ce que l'amphithéose pourrait lutter contre la spéculation?
Tout simplement, l'outil.
La barrière.
Tout ça est en cours de discussion. Le problème, c'est qu'il y a aussi, il faut faire attention aux effets d'opportunité. CityDev à Bruxelles fait du logement moyen. Et on voit qu'ils sont quand même contrôlés par toute une série de systèmes qui permettent de finalement, c'est pas ceux à qui on voulait adresser les logements qui sont dans les logements.
Claire.
Donc il faut être aussi très attentif à tout ça, c'est pas ça.
Claire Logis est un bon exemple.
Qu'est-ce qui négocie
Claire Logis à la baraque, c'est un bon exemple de
surspéculation.
Oui, pas la baraque alternative, l'autre baraque.
Qu'est-ce qui négocie les conditions de l'accès à cette. Enfin, qui sont inscrites dans les baux?
C'est la négociation.
Mais par qui? C'est ça que je questionne, c'est le pouvoir de l'UCL de pouvoir avoir une politique de logement.
Il était fixé par la loi quand on a créé Louvain-la-Neuve.
Oui, mais ça,
alors il faut changer la loi.
Est-ce que c'est légitime?
C'est légal.
c'est légal. Ça peut évoluer. Mais... l'UCL va aller prendre les bons exemples à Bruxelles, parce que c'est plus proche de nous. Il y a des choses à prendre là-dedans, effectivement, pour essayer de baliser et d'éviter cette spéculation immobilière. Ça, c'est très clair. Et l'UCL a cette volonté.
Et au-delà des techniques, peut-être que la meilleure solution, c'est que l'UCL soit transparente sur l'accès au terrain et sur les coûts. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de transparence sur qui peut accéder à quoi, à quelles conditions. Donc, je pense que la problématique d'accès est essentielle, en tout cas pour les nouveaux espaces qui vont être créés. Pour être transparent, c'est pour les familles, etc. Enfin, vous avez là un levier possible, c'est une chose. Le deuxième, c'est le coût. Alors, ce sont des terrains qui sont en partie agricoles. C'est des terrains que vous avez reçus, que l'UCL a reçus. Alors, je pense qu'au niveau des... Plutôt que d'avoir des...
Dans Usée-Bruges ou pour d'Anvers, c'est d'autres rues des terrains ici.
Je vais juste poursuivre. Plutôt que de construire des CLT ou des pots en fuite, des CLT qui permettent de réduire l'impact terrain sur le moment de la construction, pour simplifier. J'ai bien compris que ce n'était pas que ça. C'est un cas d'élément. L'idée, c'est que ce soit que le terrain soit le moins cher possible. Alors, je comprends très bien que l'UCL souhaite je pense que l'UCL doit être transparent dans le prix des terrains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme composant? Il y a bien sûr toute l'infrastructure. La composante zéro, c'est qu'ils l'ont reçu. La première partie. La deuxième partie, c'est le coût d'infrastructure. Le coût d'infrastructure. Le coût d'infrastructure, il est là. Forcément, il doit être répercuté sur les personnes qui ont qui peuvent utiliser du terrain. Et je peux comprendre qu'au-delà de ça, il y a une marge que l'UCL doit pouvoir prendre parce qu'il y a eu à développer l'infrastructure, les équipes qui travaillent là-dessus. Donc, c'est pour qu'il y ait des logiques, qu'il y ait une marge. Mais je pense qu'il serait quand même dans le cadre de l'ABI, parce qu'on est dans le système de l'ABI ici, sur le Mélanais, dans ce cadre-là, qu'il y ait une transparence en fait. Et là, je pense que l'UCL est moteur, peut-être moteur. Pas en construisant des CLT, mais en faisant que le prix du terrain au départ soit un prix raisonnable et transparent.
Je veux simplement dire que quand même, j'ai retrouvé, ça ne fait pas mal, il y avait un objectif à l'époque pour que la liste d'attribution de ces terrains, etc., parce que j'entends souvent les reproches par rapport à ça, elle était normalement aussi en possession de l'association des habitants et de l'ABI. Donc cette liste, puisque c'était première arrivée de mes servis, il y avait une communication et elle était.
Au début, en tout cas.
Je veux pas dire. Cette transparence, elle était là.
Propos, si toi tu veux.
Je vais partir sur le passé,
Jean-Louis, la transparence. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé. Non, il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé.
Oui, moi je voudrais juste revenir.
Un exposé sur l'habitat indigène. Sur l'UCL. Il faut que 3 heures nous soit un peu temps qu'ils puissent s'exprimer.
Donc, c'était juste retenir l'idée d'impliquer les gens dans les projets, parce que, que ce soit pour le logement ou pour n'importe quel projet, si les gens ne sont pas impliqués, ça marche pas.
Okay, merci.
Mais quand je vois tout ce qui s'est dit ici, je me réjouis de voir que notre créativité va encore être appelée à être stimulée.
Et avant dans les éléments de conclusion, aujourd'hui, quand on parle de CLT, quand on parle d'habitat léger, je pense qu'il y a quelque chose, il va falloir travailler les mentalités. Parce qu'ici, on parle entre personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là et qui sont peut-être prêts à faire des choses un peu différentes pour favoriser l'accès au logement, etc. Maintenant, prenons l'intégralité du territoire. Tout le monde va être confronté à une question et donc on crée un CLT. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à accepter le fait que le jour où vous vendez un bien qui vous appartient, il y a une partie qui va ne pas vous être donnée et qui va rester dans le trust? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est prêt à accepter aujourd'hui que dans le jardin du voisin, ce ne soit pas une maison, mais une yourte? Est-ce que la majorité de la population est prête à ça? Si on veut une évolution, il y a un boulot énorme sur l'évolution des mentalités qui doit être fait. Et ces deux exemples-là, c'est très parlant. Je pense qu'on est pas prêt, en tout cas en Belgique aujourd'hui, pas prêt facilement à lâcher une partie de sa plus-value immobilière.
Mais ça, les gens qui ne sont pas prêts, ils ne rentrent pas dans le système.
Oui, mais ça ne va pas être si simple de les...
C'est la condition pour rentrer dedans.
Il faudra quand même les trouver, ces gens.
Là, je dis une chose, et ça revient sur cette notion d'accompagnement de participation, c'est que le CETA, le CELC, c'est sur base d'une plateforme associative qui a travaillé pendant 2 ans avec une centaine de familles pour développer le système, et où on s'est heurté à un problème culturel qui est de dire, mais vous pouvez me donner un logement, je vais acheter une brique et je ne vais pas être propriétaire du sol, et donc des craintes, des peurs immédiates. Et il a fallu travailler, expliquer ce que c'était un amphithéotique, expliquer, travailler avec les gens pour que, à un moment, ils disent, ok, si j'achète, je suis en sécurité.
Mais si on a la chance d'avoir un terreau fertile, vu que l'amphithéose existe déjà.
Que des gens qui sont dans le besoin, en dehors de quelques bobos, hein, mais sinon, ça n'intéresse que des gens qui sont dans le besoin, et parce qu'on voit que si on touchait une population un peu plus nantie, eh bien, tout de suite, ces gens disaient, je préfère acheter un truc pourri.
Le rénover.
Essayer de taper le nom de petit à petit et n'avoir aucune contrainte que de rentrer dans le système.
Voilà, il est 11h. Je considère qu'on a clôturé notre atelier. Je considère qu'on a clôturé l'atelier. Ça n'empêche pas de continuer si vous voulez
maintenant. Voilà, c'est cool.